14h40 à Boulevard 102-1. Québec était belle en Simonac en fin de semaine, particulièrement dans le secteur du port de Québec. Moi, j'ai eu la chance d'être du côté de l'Agora du port de Québec samedi soir pour le show de Caléo. Puis déjà, l'Agora, ben, je me plais beaucoup à dire que c'est la plus belle salle de spectacle au Québec. Par contre, il y a des situations, des fois, qui surviennent, qui rendent cette salle-là extérieure encore plus exceptionnelle. Bon, je veux dire, le château, il est tout le temps en arrière, c'est déjà tout le temps spécial. Là, on avait la lune en fin de semaine, samedi soir, qui était majestueuse. Puis en plus de ça, on avait des beaux bateaux qui étaient sur le bord d'où j'étais placé à l'Agora. Ça avait comme aucun sens de me dire « OK, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme vue avec Caléo, qui a comme un style en plus qui fitait avec tout ça? » Et quelle réussite en fin de semaine pour le rendez-vous naval. On a le plaisir d'en parler avec Marc-Olivier Damour, qui est coordonnateur du rendez-vous naval. Monsieur Damour, bonjour.
Bonjour.
Je voyais un peu passer les différents... le bilan là, pour l'édition 2026 du rendez-vous naval. Est-ce que c'est l'édition qui, jusqu'à maintenant, a attiré le plus de monde, qui a été la mieux réussie?
Oui, mais dans les dernières éditions, là, c'est vraiment l'édition qui a été la plus extraordinaire là, depuis sa création en 2008. Donc, tu sais, il y a eu des retombées économiques incroyables, puis je t'entendais parler là au niveau du spectacle de Caléo, puis moi aussi, là, j'ai pris 5 minutes pour aller voir l'ambiance avec les bateaux illuminés, la lune et autres. On a eu une chance incroyable là, en fin de semaine pour le rendez-vous naval.
Quand on parle de retombées économiques, c'est quoi le genre de chiffres qu'on a à ce niveau-là?
Ben là, présentement, c'est sûr que les films de sondage et autres sont en train de ramasser tous leurs chiffres. On parle de 15 millions, près de 15 millions, et voire même plus. On parle de les dépenses des bateaux. Les bateaux viennent gratuitement et dépensent à Québec, qui est extraordinaire, là, dans le sens que c'est rare qu'autant de bateaux viennent dépenser à Québec pour faire visiter leur bateau gratuitement. Donc, ça, c'est incroyable comme cadeau là, pour la Ville de Québec.
Comment ça fonctionne, d'ailleurs, là, pour les navires, les bateaux, leur équipage qui viennent participer à l'événement? Eux, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à faire ça, à venir gratuitement visiter Québec puis dépenser ici?
Ben, en plus des cathédrales des mers, là, qu'on les appelle, ces grands bateaux-là, c'est aussi des ambassades itinérantes. Donc, quand ils rentrent dans des villes comme Québec, ben, ils ont une grande programmation avec des intérêts à aller chercher, des intérêts commerciaux. Les consuls, les ambassadeurs vont les visiter. Ils ont des rencontres d'affaires avec des fournisseurs, des gens de l'industrie économique. Donc, oui, ils ont fait visiter les bateaux à la grande population, mais en coulisses, ils se tramaient beaucoup de choses, beaucoup d'organisations, beaucoup de maillage au niveau économique, puis autant aussi au niveau des relations, là, au niveau de l'OTAN, puis les différentes marines se parlaient. Donc, ça s'appelle pas pour rien un rendez-vous. C'est qu'eux autres aussi, ils se donnent rendez-vous. Ils donnent pas juste rendez-vous à la population.
Puis on parle de retombées économiques de plusieurs millions de dollars, évidemment, les restos, les chambres d'hôtel, les commerces, etc. Mais en termes de rayonnement de la Ville de Québec aussi, c'est des gens qui viennent découvrir une ville. Est-ce que vous pensez que le rendez-vous naval contribue beaucoup là, à faire rayonner Québec?
Oui, énormément, parce que tu sais, chacun des bateaux, c'est des machines de relations publiques, là, donc story, vidéo et compagnie, là, tu sais, les images du Château-Frontenac, Ville de Québec ont été partagées partout dans le monde là, durant le rendez-vous naval. Puis, l'avez vu les images, c'est incroyable. Là. Autant en soirée qu'en journée, là, on a bénéficié là, de retombées médiatiques internationales énormes.
On a beaucoup, beaucoup entendu parler d'un navire en particulier, l'Amerigo Vespucci. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec ce navire-là? On dirait que pour bien du monde, c'était comme la chose à voir. Fallait faire le détour pour ce navire-là en particulier.
Ouais, ben il est considéré comme, parce que tout le monde le nomme comme le plus beau, mais il y a pas de concours de Miss Beauté là dans les bateaux. c'est vraiment juste, il est considéré comme le plus beau, puis effectivement, par son ampleur, son envergure et autres, c'est un bateau que, quand tu as la chance de le voir, autant de l'intérieur, de l'extérieur, que tous les détails sont parfaits. Les Italiens sont lents, mais sont très, très parfaits dans toute leur construction. Donc, c'était vraiment le plus beau. Mais tous les autres aussi, là, tous les autres bateaux étaient extraordinaires, puis surtout la chaleur des membres d'équipage qui t'accueillaient à bord, qui étaient fiers de représenter leur pays puis de faire découvrir la culture, c'était extraordinaire.
Ouais, effectivement, j'ai fait une petite visite du bateau lors d'un événement, puis ça allait pas vite, mais c'est la Dolce Vita, il faut aller à leur rythme.
Ouais.
En termes de logistique, parce que, bon, j'étais là en fin de semaine, je regardais, il y a quand même les bateaux de croisière qui continuent.
Les shows à l'Agora,
le port de Québec continue ses activités. Est-ce que c'est très complexe à coordonner tout ça avec les activités préexistantes dans le port?
Oui, bien, tu sais, il y a différents volets. Tu sais, les regrouper à la même date, au même moment, c'est très complexe. Donc, ça va être 2 ans d'organisation, sans parler, voir comment le faire. Après ça, ben, il y a la Marine Royale canadienne qui investit énormément de temps et de ressources pour aider l'organisation à rassembler toutes les données, s'assurer que tout se passe bien. Ça reste quand même des voiliers militaires, là. Ça reste quand même des voiliers école pour les officiers. Donc, il y a énormément de travail qui se fait à ce niveau-là. Puis ensuite de ça, au niveau de la logistique, ben, la Ville de Québec apporte un support incroyable. Si on ne s'attendait pas à avoir un achalandage aussi grand. Donc, c'est toutes les mesures d'urgence, la replanification des policiers et autres pour accueillir tous ces gens-là. Je sais qu'il y a eu des irritations à cause du trafic et autres, mais ça fait en sorte que c'est quand même un succès, l'événement. Puis après ça, ben, le port continue. T'sais, le port de Québec reste quand même un moteur économique pour la grande région de Québec. Fait que, là, il y a eu deux croisières en même temps que le rendez-vous naval, puis en plus de toutes les opérations normales et les opérations de la marina là, avec les rentrées et sorties de bateaux normales. Donc, ça a été une grosse fin de semaine, disons.
Au niveau de l'achalandage, c'est drôle parce que je voyais passer les retombées, je voyais passer le nombre de visiteurs qu'on estimait, puis j'ai comme été surpris à me dire, voyons, il y a donc bien des gens qui tripent ces navires à Québec, puis au Québec, puis dans les alentours. Est-ce qu'on sait si on attire vraiment beaucoup, tu sais, des passionnés de navires ou c'est le genre d'événement qui va amener beaucoup de simples curieux, là, particulièrement avec le beau temps? J'imagine que ça a comme donné une bonne poussée aussi.
Ben les médias en ont beaucoup parlé, tu sais, une image d'un grand voilier qui arrive, ben c'est très attractif pour une caméra. Donc tu sais, les médias en ont énormément parlé, mais au niveau des sondages, il y a un volet qui est pas estimé et qui est confirmé durant les heures de visite. Là, on n'a pas calculé en tout temps 24/24 des gens qui arrivent, mais on a eu durant les heures de visite d'ouverture officielle le vendredi, samedi, dimanche, on a eu 140 000 visiteurs. J'exclus tout le reste la soirée, jeudi, aujourd'hui. Donc, on peut estimer à plus de 200 000 visiteurs là, pour pour l'événement. Donc, c'est incroyable en termes de mouvement de foule. Et là, ça m'amène aussi au-delà des curieux. Là-dedans, dans les le sondage nous a confirmé qu'on avait 38 % de gens qui venaient de l'extérieur de la région de Québec. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est des gens, des passionnés qui se sont déplacés pour venir voir spécialement ces bateaux-là.
Là, c'était la 7e édition du rendez-vous naval de Québec. Est-ce que je comprends qu'il n'y en a pas nécessairement à chaque année?
Ben, c'est aux 2 ans. Okay. Le dernier est en 2024 et avant ça, c'était 2017 parce que c'était la fête du 150e du Canada. Là, présentement, au niveau de l'organisation et autres, on s'aligne toujours pour les années paires, donc 2026, 2028, 2030, et on se poursuit jusqu'en 2034, ça va être la 500e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier.
C'est quoi les défis quand on a un grand succès comme cette année où on doit arriver à un point où on doit se dire, OK, comment on peut faire mieux? Il faut au moins maintenir, on dirait, ce qu'on a eu. Là, comme je disais, la météo doit avoir aidé si on ne le contrôle pas. Mais au niveau de ce qu'on peut faire mieux, apporter comme plus, est-ce qu'on a déjà identifié certains points?
Oui, parce que on sait très bien, l'irritant majeur de l'événement était les files d'attente et autres. On parle, la carte postale était exceptionnelle. Après ça, c'est comment occuper les gens différemment en offrant beaucoup plus de variétés, salon culturel, découverte et autres. On avait déjà des activités mises en place, mais c'est là qu'on doit améliorer l'organisation pour avoir plus un regroupement d'installations qui va permettre aux visiteurs de se répartir un petit peu plus sur le territoire et que la programmation soit pas 100% axée sur les visites des navires, mais qu'on est capable de construire autour. On était très chanceux cette année d'avoir autant de choses, mais on a dû aussi faire en sorte qu'il y avait des spectacles à l'Agora et des opérations de croisière. Donc, on manquait un petit peu d'espace pour produire l'événement.
Marc-Olivier Damour, coordonnateur du rendez-vous naval, merci beaucoup.
Merci.
Ah bye. Félicitations pour l'événement cette année. Comme je dis, ma participation s'est limitée à passer à côté pour aller à l'Agora, puis après ça, trouver ça merveilleux avec la musique de Caléo, avec la lune, le château en arrière, les bateaux.
C'était ton décor, mais t'étais pas venu pour les bateaux.
Tandis que toi, ça m'a fait rire quand il a mentionné lui aussi, Marc-Olivier Damour, le style de vie, disons, des Italiens.
La lenteur.
Ça va tranquillement parce qu'en introduction, tu nous avais parlé de ta petite dégustation de vino sur le Américo Vespucci. Dans les prochaines minutes, on va parler avec Daniel Gobeil, qui est candidat du Parti libéral du Canada pour la partielle dans Chicoutimi-le-Fjord. Mais en attendant, je veux qu'on reste dans ce qui est marin, tant qu'à être dans le thème, Antonine, parce que tu connais peut-être pas ma grande passion pour les grands requins, hein?
Non.
Mais moi, en fait, c'est vraiment...
Parle-moi de ça.
Ben, c'est parce que moi, ça a été les mégalodons. Moi,
Je t'ai déjà entendu parler de
c'est
ça.
C'est ça. Moi, tu me parles de requins, même les grands requins blancs.
Attends, mets-nous en contexte. Les mégalodons, c'est comme des requins préhistoriques,
exact,
n'est-ce pas?
Mais gigantesques, là.
OK.
Tu sais, jusqu'à 20 mètres, des dents... Je veux dire, c'est...
Des dents grandes comme toi.
Ben, pratiquement... Ça pouvait, ben en fait, j'exagère. C'était surtout entre 20, ça pouvait aller jusqu'à 30 cm de mémoire.
Ah, quand même.
Oui.
Tu connais tes mégalodons?
Ben, beaucoup trop. À un moment donné, c'était vraiment une obsession que j'avais. Mais là, pourquoi je parle de requins et par la bande de mégalodons qui n'existent plus en passant, malgré les rumeurs, là, ça se peut pas. Là. J'ai fait une croix là-dessus. Là. Mais c'est qu'on a de plus en plus de grands requins blancs au Québec. Et dans les derniers jours, ben, on a localisé un troisième requin blanc pas loin des îles de la Madeleine. Et on serait maintenant à un compte de 4 requins blancs dans les eaux du Québec. Là, c'est une femelle, nous dit-on, de 457 kilos qu'on a localisée. C'était
Il leur donne des noms en passant. Hein?
Ben oui.
Je savais pas ça, moi.
Comme là, on a notamment on a Bella qui a été recensée là, dans les derniers jours. 10 pieds de long pour Bella.
C'est moins qu'un mégalodon, mais quand même. Tu tombes là-dessus, là, en allant te baigner, mettons.
C'est le plus près qu'on peut avoir. Je veux pas faire peur à personne. Là, quand vous allez vous baigner, mettons, à la baie de Beauport, les chances que vous tombiez sur un grand requin blanc, je les qualifierais de très, très minces. Mais je voulais vous dire que ça existe. Puis peut-être que plus tard cette semaine, on aura la chance là, de parler à un spécialiste par rapport à ce sujet-là qui me passionne beaucoup.
Ouais, je pense que ça va t'intéresser beaucoup. Puis ça devrait intéresser tout le monde, parce que là, avec le réchauffement climatique, le fleuve et l'estuaire, c'est en train de se transformer dramatiquement. Puis c'est tous des écosystèmes vraiment fragiles. Hein. Si un grand requin blanc qui commence à venir se promener dans l'estuaire, vous comprenez que ça change les choses pour les espèces qui sont déjà sur place. Donc, si on se trouve cet expert là, plus tard cette semaine, je vais avoir pas mal de questions sur ce que ça implique. Puis le but, c'est pas de faire des médias catastrophes, là, genre vous allez vous faire manger par des requins,
non.
Puis avoir des requins blancs partout, pas du tout. Mais des fois, il peut avoir des conséquences insoupçonnées puis qui pourraient se rendre jusqu'à Québec. Je sais pas si tu savais, Max, est-ce que t'aimes les crevettes de Matane?
Ben, pas spécifiquement.
Toi, mais... Mathias, aimes-tu ça, les crevettes de Matane?
Ben, j'aime les crevettes.
Ben voyons, je pensais au moins en avoir un de vous deux qui est comme « j'adore les crevettes de matane, une bonne guédille aux crevettes de matane ».
Y a-t-il quelque chose de particulier, tu sais, les crevettes de matane, sont-tu reconnues particulièrement?
Sont petites, sont bonnes, mais tout ça pour dire que dans quelques années, il n'y en aura plus de crevettes de matane. Les stocks sont en baisse constante, puis notamment à cause des changements climatiques et de changements dans l'écosystème. Donc, quand vous pensez que ça ne vous touche pas, là, ben mes guédilles aux crevettes, là, moi, je ne pourrais plus en manger.
Donc, restez là cette semaine dans le retour pour une chronique plus complète là, d'Antonine sur les crevettes. De Matane. Mais là, on n'a pas le temps, malheureusement, parce que Daniel Gobeil, candidat du Parti libéral du Canada pour la partielle qui s'en vient dans Chicoutimi-le-Fjord, est au bout du fil. On lui parle dans quelques minutes. Le retour.